L'autobus du paradis, chapitres 7 et 8. J'avais contemplé avec une certaine complaisance, je l'avoue, les vains efforts de mon compagnon de route. Cependant, quand je me retrouvai seul, la présence du géant liquide me plongea dans un grand malaise. Il ne semblait pas me remarquer, mais moi, je me sentais gêné, et je crois que la désinvolture avec laquelle je redescendis sur les pierres plates le cours de la rivière n'était qu'apparente. La fatigue m'envahissait. Regardant le poisson argenté qui filait comme une flèche à peine au-dessus du lit de la rivière, j'aurais bien voulu que l'eau me fût comme à lui perméable. J'y aurais vite fait un plongeon. « Vous songez à repartir ?» fit soudain une voix derrière moi. Je me retournai et vis un fantôme de haute taille, debout, le dos contre un arbre, et mâchonnant nonchalamment un cigare de manille tout aussi fantomal que lui. C'était un homme sec, à la mine blasée. Ses cheveux étaient grisonnants et sa voix rude, quoique non dépourvue de distinction. Tout à fait le genre d'homme à qui j'ai toujours instinctivement fait confiance. « Je ne sais pas, » dis-je. « Et vous ?»« Moi, eh bien oui, je m'en vais. Je crois que j'ai vu à peu près tout ce qu'il y avait à voir. »« Vous ne songez donc pas à rester ?»« Vous n'y pensez pas. » Tout cela, c'est de la propagande. Il n'a jamais été réellement question que nous restions. On ne peut ni manger de ses fruits, ni boire de cette eau, et rien que de marcher sur l'herbe vous prend tout votre temps. Un être humain ne peut pas vivre ici. Cette idée de rester qu'on fait miroiter devant nos yeux n'est pas autre chose qu'un montage publicitaire. Alors pourquoi êtes-vous venu ? Oh, je n'en sais trop rien. Simplement pour jeter un coup d'œil. Je suis de ces gens qui aiment à se rendre compte des choses par eux-mêmes. Partout où j'ai été, j'ai toujours eu le souci de regarder de près ce qu'on nous vantait. Quand j'ai été en Extrême-Orient, j'ai voulu voir Pékin. À quoi ressemblait Pékin ? Oh, rien de spécial. Rien que des murailles et encore des murailles. Un attrape-touriste. J'ai été un peu partout. Les chutes du Niagara, les pyramides, Salt Lake City, le Taj Mahal, il ressemblait à quoi? Ça ne valait pas le dérangement. Tout cela, je le répète, c'est du montage publicitaire, fabriqué partout par les mêmes types. Un trust, je vous le dis, un trust d'envergure mondiale. Ils prennent un atlas et ils y piquent un drapeau là où ils décident qu'il y a quelque chose à voir. Peu importe ce qu'ils choisissent, pourvu que le battage publicitaire soit bien fait. Et vous avez vécu quelque temps là-dessous, dans la ville, dans ce qu'on appelle l'enfer? Oui, et c'est tout aussi raté que le reste. On vous fait croire qu'il y aura des flammes, et des démons, et toutes sortes de personnages connus, en train de rôtir sur des grilles, Henri VIII, par exemple. Et tout ce qu'on voit, c'est une ville, tout comme les autres. Je préfère ceci. « Eh bien moi, dit le fantôme blasé, je ne vois pas à quoi rime tout ce qu'on en dit. Cela ressemble à n'importe quel parc, en moins confortable. Il semble pourtant que si l'on y restait, on pourrait, comment dire, devenir plus compact, plus consistant, s'acclimater, quoi. « je sais, grommela mon interlocuteur. Toujours les mêmes rengaines. On m'a raconté cela tout au long de mon existence. » Je n'étais encore qu'un bébé, quand on m'a dit que si j'étais sage, je serais heureux. À l'école, même refrain, le latin deviendrait facile avec le temps. J'étais à peine marié d'un mois, qu'un idiot m'a dit qu'il y avait toujours des difficultés au début, mais qu'avec un peu de tact et de patience, je verrais tout rentrer dans l'ordre et je serais heureux. Et pendant deux guerres successives, que n'a-t-on pas inventé à propos du bon temps que je me paierais ensuite, si seulement je me montrais brave et continuais à me faire tirer dessus? Eh bien, c'est la même farce qu'on nous joue ici. Il faudrait être complètement idiot pour les écouter. Vous dites « les écouter ». De qui parlez-vous? C'est peut-être différent ici. Direction entièrement renouvelée, n'est-ce pas? Ne croyez pas cela. Il n'existe nulle part de direction nouvelle. C'est toujours et partout la même clique. C'est comme quand notre chère petite maman venait dans notre chambre et nous tirait les vers du nez. Puis nous découvrions qu'elle est notre père était de connivence. Ne savons-nous pas que dans toutes les guerres, les deux armées en présence ont été manœuvrées par les mêmes fournisseurs d'armes, et que c'est toujours la même bande qui est derrière les Juifs comme derrière le Vatican, derrière les dictateurs comme derrière les démocraties, et tout le Bataclan, toute la boutique ici est régentée par les mêmes types qui tiennent les leviers de commande dans la ville d'en bas. Ils se moquent de nous, voilà tout. Je croyais qu'ils se faisaient la guerre. Naturellement, c'est la version officielle, mais qui en a jamais vu les signes ? Oh, je le sais, c'est bien ce qu'ils disent. Mais s'ils sont réellement en guerre, pourquoi ne bougent-ils pas ? Ne voyez-vous pas que si la version officielle était vraie, les types d'ici devraient attaquer la ville et la rejeter dans le néant ? Ils sont assez forts pour cela. S'ils voulaient vraiment nous sauver, ils pourraient le faire. Mais évidemment, mettre fin à leur prétendue guerre est le dernier de leurs soucis. Leur jeu consiste à la faire durer. Tout cela me parut assez plausible pour en devenir inquiétant. Je ne répondis rien. De toute façon, poursuivit le spectre, qui veut être sauvé ? Que diable aurait-on à faire ici ? Pas plus qu'en bas, dis-je. C'est bien ça. D'un côté comme de l'autre, ils nous tiennent. Qu'aimeriez-vous faire si vous aviez le choix ? Je vous attendais là, s'écria le spectre avec un accent de triomphe. Vous me demandez d'établir un plan, mais cela regarde la direction. C'est à eux de trouver quelque chose qui ne nous embête pas. C'est leur boulot. Pourquoi devrions-nous le faire à leur place ? C'est justement là que les curés et les moralistes ont mis les choses à l'envers. Ils passent leur temps à nous demander de nous transformer. Mais si ceux qui tiennent la queue de la poêle sont aussi habiles et puissants qu'on nous le dit, pourquoi ne sont-ils pas capables de trouver quelque chose qui plaise à leur public ? Au lieu de cela, ils nous servent des idioties, comme de nous inviter à devenir plus durs, de sorte que l'herbe ne nous blesse plus les pieds. Que diriez-vous si, par exemple, vous vous trouviez dans un hôtel où les œufs sont détestables ? Vous allez vous plaindre au patron, et celui-ci, au lieu de s'excuser et de changer de crémier, vous dit d'essayer quand même, en vous assurant qu'avec le temps, vous arriverez à aimer les œufs pourris. Et, après un moment de silence, « Bon, je m'en vais. M'accompagnez-vous ? » S'il faut vous en croire, je ne vois pas grand intérêt à aller où que ce soit, dis-je. Je me sentais très déprimé. Et puis ici, au moins, il ne pleut pas. « Pas pour le moment, reprit mon fantôme blasé. Mais je n'ai jamais vu un seul de ces matins ensoleillés qui ne tourne pas un peu plus tard à la pluie. Et quand il pleut, fichtre, y avez-vous pensé ? Avec le genre d'eau qu'on a ici, la moindre goutte vous percera comme une balle de mitrailleuse. C'est leur manière à eux de plaisanter. Ils commencent par nous offrir un terrain sur lequel nous ne pouvons pas marcher, et une eau que nous ne pouvons pas boire, puis ils font de nous une passoire. Mais moi, ils ne mourront pas comme ça. » Sur ce, il disparut. Je restai un moment assis sur une pierre, au bord de la rivière, avec le sentiment d'être plus misérable que je ne l'avais jamais été dans toute ma vie. C'est vrai que l'idée m'avait effleuré que s'ils étaient tout aussi bienveillants que l'un ou l'autre d'entre eux avait paru l'être, ils auraient bien dû faire quelque chose pour secourir les habitants de la ville, quelque chose de plus que de venir à leur rencontre dans la plaine. Maintenant, une terrible explication surgissait dans mon esprit. Et s'ils n'avaient jamais eu l'intention de nous faire du bien ? Et si tout ce voyage n'avait été arrangé que pour leur permettre de se moquer de nous ? Le souvenir d'horribles mythes, de redoutables croyances s'agitait dans mon cerveau. Je me rappelais comment les dieux avaient puni Tantale. Je songeais à ce passage de l'Apocalypse dans lequel il est dit que la fumée de l'enfer ne cesse jamais de monter sous le regard des esprits bienheureux. Je me souvenais de ce pauvre poète Cooper qui avait rêvé qu'après tout il n'était pas voué à la perdition. Sachant aussitôt que ce rêve n'était qu'une illusion, il affirma « Ce sont là les flèches les plus acérées de son carquois ». Et ce que le spectre blasé m'avait dit de la pluie était parfaitement vrai. De simples gouttes de rosée tombant d'une branche m'auraient mis en pièces. Je n'avais pas pensé à cela auparavant, et j'aurais pu aisément m'aventurer parmi les gouttelettes que la chute d'eau faisait gicler autour d'elle. Le sentiment d'un péril imminent, qui ne m'avait pas quitté depuis ma sortie du bus, s'empara soudain de moi avec une urgence accrue. Je jetai un regard circulaire sur les arbres, les fleurs, la cataracte douée de la parole. Toutes ces choses avaient pris un aspect menaçant, insupportable. Les insectes brillants voletaient de ci et de là, rapides comme des flèches. S'ils prenaient à l'un d'eux la fantaisie de se lancer contre mon visage, ne passerait-il pas à travers? S'ils se posaient sur ma tête, n'allais-je pas être écrasé sous son poids? J'entendais la peur me souffler. « Ta place n'est pas ici. » Et puis, il y avait les lions. Bien que n'ayant pas en tête de plan bien défini, je me levai et, m'éloignant de la rivière, je me dirigeai vers un endroit où les arbres avaient poussé plus serrés. Je n'étais pas complètement décidé à rejoindre le bus, mais je voulais tout au moins éviter les endroits découverts. Si j'avais seulement l'ombre d'une preuve qu'il était possible à un fantôme comme moi de rester, que ce choix offert n'était pas une cruelle comédie, je ne partirais pas. Entre-temps, je poursuivis mon chemin, posément, mais en me tenant toujours sur mes gardes. Au bout d'une demi-heure de marche, je parvins à une petite clairière au centre de laquelle avaient poussé quelques buissons. Je m'arrêtai un moment, me demandant si j'allais me risquer à la traverser, quand je m'aperçus que je n'étais pas seul. Un spectre s'avançait en clopinant, aussi vite qu'il pouvait le faire sur ce sol raboteux. De temps en temps, il jetait un regard par-dessus son épaule, comme s'il avait été poursuivi. Je vis bientôt que cela avait été une femme, et une femme élégamment vêtue, mais dans la lumière indécise du matin, l'ombre de ses parures prenait des reflets sinistres. Elle se dirigeait vers les buissons, mais ne put réussir à pénétrer dans cette masse dure de tiges et de feuilles. Elle se pressa cependant tout contre, semblant croire qu'elle s'était ainsi mise à l'abri. Au bout d'un moment, un pas se fit entendre, et je vis apparaître un des êtres lumineux. Comme ses congénères, il faisait résonner le sol en marchant, ce qui n'était pas notre cas à nous autres fantômes. « Allez-vous-en ! » glapit le spectre féminin. « Allez-vous-en ! Ne comprenez-vous pas que je veux être seul ?»« Mais vous avez besoin de moi, » fit l'être opaque. « S'il vous restait la moindre trace de délicatesse, vous ne me poursuivriez pas ainsi. Je n'ai pas besoin d'aide. Je veux qu'on me laisse seul. Partez ! Vous savez bien que je ne peux pas marcher assez vite sur ces affreux piquants pour vous éviter. C'est abominable de votre part de profiter de l'avantage que vous avez sur moi. » « Oh, pour ça, il ne faut pas vous inquiéter. Vous serez bientôt en mesure de marcher normalement. Mais vous avez pris la mauvaise direction. C'est vers les montagnes qu'il faut aller. Vous pouvez compter sur moi. Je ne peux pas vous porter complètement, mais vous n'aurez presque pas à peser sur vos pieds, et ceux-ci vous feront souffrir de moins en moins à chaque pas. Vous savez bien que je n'ai pas peur de souffrir. Alors, quoi ? Vous ne comprenez donc rien ? Croyez-vous sérieusement que je puisse aller vivre comme ça parmi ces gens-là? Pourquoi pas? Je ne serais jamais venu si j'avais su que vous étiez tous habillés comme ça. Mais, ami, je ne suis pas habillé du tout. Ce n'est pas cela que je veux dire. Allez-vous-en. Mais vous ne pouvez pas me dire pourquoi. Si vous ne voulez pas comprendre, je perds mon temps à essayer de vous expliquer. Comment puis-je aller, tel que je suis, me mêler à des gens qui ont de vrais corps, des corps opaques? Ce serait pire que de me montrer en public, sur la terre, sans rien sur moi. Penser que tout le monde pourrait me percer du regard. Ah, je comprends, mais vous savez, nous étions tous un peu fantomatiques quand nous sommes arrivés. Cela ne dure pas. Venez seulement essayer. Mais ils vont me voir. Qu'est-ce que cela fait? J'aimerais mieux mourir. Mais vous êtes déjà morte. Il serait vain de tenter de recommencer. Le spectre fit entendre un son mi-sanglot, mi-soupir. « Je voudrais n'être pas né. Pourquoi donc sommes-nous nés ?»« Pour un bonheur infini, » répliqua l'esprit. « Il vous appartient d'y entrer quand vous voudrez. »« Mais je vous l'ai dit, ils vont me voir. »« Dans une heure d'ici, vous ne vous en soucierez plus. Un jour de plus, et vous en rirez. »« Ne vous rappelez-vous pas que sur la terre, il y avait des boissons trop chaudes pour qu'on y mît le doigt ?» Et pourtant, vous arriviez sans peine à les avaler. Il en va de même de la honte. Si vous l'acceptez, si vous videz la tasse jusqu'au fond, vous trouverez la boisson très nourrissante. Mais essayez d'en faire autre chose, elle vous échaudera. Voulez-vous vraiment dire ? Mais elle n'acheva pas sa phrase. Ce fut pour moi un moment de tension intense. Je sentais que ma propre destinée était suspendue à sa réponse. Je serais bien tombé à ses pieds pour la supplier de se rendre. « Oui, » répéta l'esprit, « venez, essayez. » On aurait pu croire que la pauvre femme obéissait. Elle esquissait déjà un mouvement, mais soudain elle s'écria « Non, je ne peux pas. Je vous dis que je ne peux pas. Pendant que vous parliez, j'ai cru un moment, mais quand il a fallu, vous n'avez pas le droit de me demander pareille chose. C'est répugnant. Si je le faisais, je ne me le pardonnerais jamais, jamais. Et ce n'est vraiment pas juste. On aurait dû nous avertir. Je ne serais jamais venu. Et maintenant, s'il vous plaît, partez. » Ami, pourriez-vous, rien qu'un petit instant, penser à autre chose qu'à vous-même ? Je vous ai déjà répondu, soupira-t-elle d'un ton froid, mais où l'on sentait encore des larmes. Dans ce cas, il n'y a plus qu'une solution, fit posément l'esprit. Et à ma grande surprise, il emboucha une trompe et se mit à souffler dedans. Je dus me boucher les oreilles. La terre tremblait. Toute la forêt s'agitait convulsivement. Je suppose qu'il y eut ensuite une pause, même si je n'en fus pas vraiment conscient. Puis, j'entendis un bruit de sabots, lointain d'abord, puis se rapprochant, avant même que j'eusse pu l'identifier, si proche enfin que je cherchais des yeux un endroit où je pourrais me mettre en sûreté. Je n'en avais pas trouvé encore que le danger était déjà là. Un troupeau de licornes arrivait au galop, faisant un bruit de tonnerre. La plus petite d'entre elles avait 27 coudées de haut. Elles étaient blanches comme des cygnes, mais il y avait des lueurs rougeâtres dans leurs yeux et autour de leurs naseaux, et leurs cornes avaient des reflets d'indigo. Je crois entendre encore les mottes humides qui giclaient sous leurs sabots, les broussailles qui s'écrasaient, le bruit qu'elles faisaient en s'ébrouant et en hennissant. De temps en temps, elles faisaient une ruade et donnaient de la corne, simulant le combat. Simple répétition sans doute, mais en vue de quelle bataille ? J'entendis la femme fantôme pousser un cri de terreur. Elle fit, je crois, un bond en avant, et peut-être se dirigea-t-elle vers l'esprit, mais je n'en suis pas sûr. Mes nerfs, en effet, avaient lâché, et je me sauvai sans prendre garde cette fois à l'âpreté du sol sur lequel je marchais, et sans oser m'arrêter une seconde. Je n'ai jamais su comment l'entrevue s'était terminée.